Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie de notre épisode consacré à l'affaire dite des Family Court Attacks. On a vu au cours du premier épisode qu'un juge ainsi qu'un autre homme ont été abattus par balle à bout portant. Aujourd'hui, on va voir que ces attaques se sont poursuivies quelques années plus tard avec des attentats à la bombe qui ont également, dans ce cas-là, fait des morts. On va ensuite s'intéresser au fait que ces attaques, qui ciblent donc le tribunal aux affaires familiales, interviennent quelques années seulement après une réforme en profondeur du droit de la famille australien. On va donc démarrer tout de suite. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Alors donc, effectivement, la police tâtonne faute de preuves. Et résultat, 4 ans plus tard, on a à nouveau des attaques. Et cette fois, le lien avec ce fameux tribunal aux affaires familiales semble clairement établi, puisque un autre juge qui s'appelle Richard G., qui n'a rien à voir avec l'acteur, et qui avait en plus repris une partie des affaires traitées par David Hoppas avant qu'il soit tué. Ce juge Richard G est lui blessé par une bombe posée à son domicile, donc c'est plus une arme à feu, c'est carrément une bombe. Et un mois plus tard, c'est le tribunal lui-même, le tribunal de Parramatta, qui est ciblé. Il y a une bombe qui explose. Heureusement, pour le coup, cette fois, il n'y a aucune victime. Et enfin, quelques mois plus tard, c'est cette fois la femme d'un juge, dont on suppose évidemment que c'était le juge la véritable cible, qui meurt, alors qu'un véhicule explose au moment où elle ouvre la porte de sa maison. Mais là, encore une fois, alors on a parlé de ce monsieur Warwick qui éveille les suspicions de la police, mais... elle reste quand même sans véritable preuve définitive et toujours à se poser la question, est-ce qu'on est bien en face du bon client? Et c'est à cette période que la police se met à proposer, comme on le voit des fois dans les films américains, une forte récompense à quiconque pourrait apporter des informations sur cette affaire.
Oui, sauf qu'encore une fois, des informations, ils n'arrivent pas à en trouver. Et alors, on va remonter justement cette histoire. Donc, on a nos deux personnes mortes, abattues. Une balle dans la tête, dans l'eau, et l'autre à sa porte d'entrée, en fait, quand il a ouvert. Là, on parle d'explosion, à la fois pour le juge G, pour le tribunal de Parramatta, et puis la femme d'un juge qui s'est trouvé être au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, le lien entre Richard G, donc juge aux affaires familiales, avec son collègue David Hoppas qui a été abattu d'une balle dans la tête, c'est pas qu'il a repris certaines affaires, c'est qu'il a repris son poste.
Ah, sa fille, autant pour moi.
Sa fille a témoigné à la télé qu'en fait, elle sentait déjà à l'époque, la fille de Monsieur G, que c'était un peu particulier en fait, que son père reprenait la place d'un mort, enfin un mort, quelqu'un d'assassiné, qui reprenait ses dossiers. Enfin voilà, c'est le remplaçant officiel de Monsieur Hoppas. Et donc, que Monsieur G se fasse, il y a une tentative d'assassinat à l'explosif dans sa maison 4 ans plus tard. Enfin, là, ça peut plus être un hasard. Il y a plein de cours de justice différentes en Australie. Il se trouve que le tribunal des affaires familiales de Nouvelle-Galles du Sud, qui a perdu le seul juge assassiné en fonction 4 ans plus tôt, se voit avec une tentative d'assassinat sur la personne qui le remplace. Donc, évidemment, la police n'est pas bête. Elle se jette sur les dossiers de Monsieur G et recoupe. Essaie de retrouver les cas qui pourraient corroborer entre les affaires traitées par M. Hoppas, par le juge Hoppas et par le juge G. Effectivement, on retrouve encore ce fameux Leonard Warwick. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne l'arrête pas? Mais ça ne suffit pas, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison sans preuve. Sauf que ce qui est intéressant, parce que j'ai quand même passé un peu de temps à rechercher cette affaire, justement parce qu'elle est très compliquée, au moment où la maison de Monsieur G explose, enfin un bon tiers explose, il y a quand même sa femme et ses enfants à l'intérieur, c'est absolument horrible, il en ressort bien gravement atteint, mais enfin, après des opérations, il s'en sort. Quelques semaines avant cette explosion, la police de Nouvelle-Galles du Sud avait été informée par une compagnie de ciment, enfin de béton local, qu'on leur avait volé quand même 20 kilos d'explosifs. Et une autre entreprise à qui on avait volé des mèches. Donc il y avait clairement quelqu'un dans le coin qui essayait de faire sauter quelque chose. Là où ça relève quand même, c'est assez intéressant, c'est que Monsieur Warwick a donné des interviews publiques en disant, mais attendez, moi j'ai aucune expérience sur les explosifs. Et c'est pas de l'explosif très simple, très propre. Enfin, c'est quand même très très risqué de manipuler ces choses-là. Il faut effectivement vraiment s'y connaître. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, à l'époque, fait la guerre du Vietnam dans une section d'artillerie, peut-être que ça se serait recoupé. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un pompier. Et a priori, comme dit Monsieur Warwick, moi, à part tuer des lapins avec mon fusil, j'ai aucune expérience des armes ou des explosifs. Bon, alors vous me direz, ça paraît un peu gros. Alors, Monsieur J n'est pas donc mort, mais très peu de temps après, c'est le tribunal, en tant que lieu physique, qui est lui visé et dans lequel il y a un attentat à la bombe. Donc effectivement, ça commence à faire lourd. Vous avez un juge mort, un autre qui a été gravement mis en péril, et le tribunal des affaires familiales de Parramatta qui est explosé. Et par ailleurs, on sait qu'un autre juge aurait dû y passer puisque c'est sa femme qui malheureusement est morte, encore une fois par explosion. Donc vous avez un mode opératoire sur les trois derniers cas, les trois derniers faits, c'est-à-dire l'explosif, et vous avez comment dirais-je, un fil conducteur qui sont la cour des affaires familiales. Voilà. Et la police sait qu'elle doit chercher quelqu'un qui recoupe ces deux choses, mais elle n'arrive pas à trouver de preuves définitives.
Et donc, effectivement, c'est pour ça que ce monsieur va rester encore dans la nature pendant des années. Alors, avant d'avancer, je voulais qu'on remette un peu cette affaire dans le contexte, même si, évidemment, dans ce cas précis, on parle effectivement d'un individu violent qu'il a été avant même qu'il a été avec son ex-femme, avant même de passer à l'acte et carrément de tuer des gens. Mais il se trouve que en 1980, ça fait à ce moment-là très peu de temps que le droit de la famille en Australie a subi une très profonde modification, et pour le dire rapidement, une modification qui consiste notamment à faciliter grandement les procédures de divorce, ce qui est plutôt bénéfique aux femmes pour qui c'était un peu plus difficile par le passé de se séparer d'un mari avec qui elle ne s'entendait plus ou dont elle subissait les violences.
Oui, complètement. Alors là, c'est du coup, je remets ma casquette d'historien. Quand le gouvernement Whitlam est élu au début des années 70, en 72, il y a tout un tas de mesures qui sont mises en œuvre, dont la simplification des régimes familiaux et du divorce. Parce qu'à l'époque, l'Australie est un peu en arrière, voire beaucoup en arrière, et les cas de divorce sont gérés par la Matrimonial Causes Act de 1959, où en fait, le divorce est uniquement fondé sur la faute, jusqu'en 1975. Donc, jusqu'en 1975, si vous ne pouvez pas prouver de faute, vous ne pouvez pas vous séparer, vous ne pouvez pas divorcer. Les fautes sont l'adultère, la cruauté, l'abandon du domicile pendant au moins 2 ans, l'ivresse, habituel, l'emprisonnement ou la maladie mentale, voire de façon anecdotique la non-consommation du mariage après un certain temps. Donc, si sans ces fautes-là, vous ne pouvez pas divorcer. Or, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on pourrait demander à se séparer d'un conjoint. Et donc, pour arrêter d'encombrer les cours de justice traditionnelles, le gouvernement Whitlam a l'idée, pas nécessairement révolutionnaire parce que d'autres pays avaient ouvert la porte, de créer des cours de justice familiale qui ne traiteraient que des affaires ayant trait à la famille. Le divorce, la garde d'enfants, la séparation des biens entre conjoints. Et donc ces cours ont pour but d'être plus rapides, plus efficaces et surtout moins symboliquement violente. Parce qu'avant, la cour, vous avez la perruque, la robe, enfin la toge, j'oublie le mot, pardon, en français, on m'excusera. Vous avez tout un apparat autour de la cour qui effraie un certain nombre de personnes qui n'ont pas seulement les moyens aussi de prendre un avocat pour prouver la faute de l'autre. Donc c'est très compliqué. Et donc ces cours en 75 sont une révolution parce qu'elles instituent, en même temps qu'elles sont créées, le divorce sans faute. Donc une femme comme Andrea Blanchard peut dire j'en ai marre et je veux le divorce et je n'ai pas à me justifier. Et après, cette cour peut, comment dirais-je, gérer la répartition des biens et surtout la garde des enfants. Dans notre cas particulier, ce qui est intéressant, c'est que la création de cette cour des affaires familiales avec le Family Law Act de 1975, elle avantage Madame Blanchard dans le sens où elle peut demander un divorce sans faute. En revanche, elle la désavantage vis-à-vis de la garde de l'enfant parce que avant la réforme de 75, généralement, les cours australiennes attribuaient toujours la garde de l'enfant à la mère pour des raisons variées, mais les cours australiennes considéraient que faire attention aux enfants était la prérogative plutôt maternelle que paternelle. Or, avec la réforme de 75, les pères ont des droits. Ils ont des droits de demander à voir leurs enfants en cas de divorce. Et donc, d'un côté, Monsieur Warwick est très en colère que sa femme puisse partir et divorcer. En revanche, il utilise quand même le système pour pouvoir voir sa fille.
Et alors ces réformes, au-delà de Monsieur Warwick, elles sont quand même assez mal vécues à l'époque, se développent dans le pays, mais d'ailleurs dans d'autres pays qui ont connu le même genre de réformes autour du droit du divorce à peu près à la même période, il y a des mouvements de défense des droits des hommes qui commencent à se créer et à se faire entendre, et certains sont même assez violents. Alors il y en a, posent pas des bombes dans les tribunaux, mais ils font entendre leur colère de façon assez véhémente.
Oui, alors je vais juste reprendre un point, c'est que de manière générale, cette réforme, le Family Law Act de 75 et les cours des affaires familiales ont quand même permis à des centaines, des milliers de femmes de sortir de relations violentes. Et de manière générale, elles ont plutôt été bien acceptées par la société australienne. C'est une vraie révolution qui est allé dans le bon sens. Bon, comme tout changement, il peut y avoir parfois des externalités négatives. Et là, il se trouve que, effectivement, certains pères, il y a même eu une association qui a été fondée, l'association des pères seuls, The Lone Fathers Association en 90, qui a conduit à la création d'un comité parlementaire qui a réévalué, en fait, la Family Law Act pour justement redonner un peu plus pas nécessairement de pouvoir, mais de présence ou de considération au père, parce que effectivement certains pères se sont sentis discriminés vis-à-vis des nouvelles règles établies par le Family Law Act de 75. Donc, de manière générale, c'est une avancée pour la société, c'est surtout une avancée pour le droit des femmes. Et effectivement, dans certains cas, il y a eu des abus qui ont conduit à des révisions et à comment dirais-je, un remaniement de cette législation. Mais à l'époque, c'est vécu comme une avancée majeure. Les femmes ont le droit de demander le divorce parce qu'en réalité, on sait très bien qu'avant, c'était extrêmement compliqué de prouver un adultère. Vous n'êtes pas dans la chambre de l'autre quand il vous trompe. Donc voilà. Donc ça donne un moyen de se séparer de conjoints violents sans avoir à prouver une faute. Et puis parfois, il n'y a pas nécessairement de violence, mais les couples n'ont plus envie d'être ensemble et donc ça accélère les choses considérablement. Donc c'est une avancée à la fois pour les hommes et pour les femmes de ce point de vue-là.
On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous a donc décrit toutes ces attaques qui ont secoué les années 80 en Australie, le contexte dans lequel ces attaques sont intervenues, Et puis dans la dernière partie, qui sera publiée dans quelques jours, eh bien on vous donnera la résolution de cette affaire. Vous verrez qu'il aura fallu attendre plus de 30 ans pour que la police interpelle enfin le principal suspect dans cette affaire. À très bientôt et bonne journée à vous.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.